Sotrevoix de la presse.
Plus on apprend, plus on ne sait rien.
Une émission présentée par Jocelyn Perret.
On nous informe vraiment sur rien.
Bonjour, aujourd'hui pour les autres voix de la presse, nous accueillons Flora Bellouin. Bonjour Flora.
Bonjour.
Donc Flora, tu es autrice avec Audrey Gondalier du petit manuel de résistance contre les violences sexistes dans le monde des médias. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous expliquer l'origine de ce projet ?
Oui, bien sûr. Bah, donc en fait, avec Audrey, on anime une formation qu'on a lancée il y a un an sur la question des violences et du harcèlement sexiste et sexuel dans le monde des médias. Donc il y a une formation plutôt à destination des professionnels des médias et aussi des personnes qui interviennent en éducation aux médias. Donc ça peut être aussi des éducateurs, éducatrices ou des animateurs, animatrices socioculturelles. C'est une formation qu'on a montée avec l'organisme de formation de la Fédération d'audiovisuel participatif, avec laquelle on animait déjà une autre formation qui est plutôt vraiment pour les gens qui veulent monter des projets d'éducation aux médias et à l'information. Et ça a été la première déclinaison un peu thématique qu'on a décidé de développer au sein de la Fédération.
Tu parles de la Fédération d'audiovisuel participatif. De mémoire, ça regroupe une quarantaine de médias, donc de l'audiovisuel. Ça fait partie également de ce qu'on appelle l'éducation aux médias.
Voilà, donc en fait, la Fédération d'audiovisuel participatif, c'est une fédération de structures qui existent depuis plus d'une trentaine d'années et qui regroupent, au début c'était vraiment les premières structures de télé participative, télé de quartier ou en milieu rural. Et donc, qui a évolué petit à petit et qui, à un moment donné, quand il y a eu le boom de l'éducation aux médias à partir de 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, il y a eu cette volonté aussi au sein de la Fédération audiovisuelle de s'emparer un peu de l'éducation aux médias en se disant on ne veut pas rester sur le carreau puisqu'on fait déjà de l'éducation aux médias depuis des années sous des formes certes différentes qui sont peut-être moins dans une perspective de... disons de rééducation aux médias qui a été aussi une dimension importante des projets qui se sont montés après 2015, mais qui sont un peu l'essence aussi de beaucoup de projets de radio participative, de télé participative, dans le sens où on forme aussi des bénévoles, où on peut aussi être amené à faire des actions pédagogiques. Donc il y a eu cette volonté de se situer aussi dans le champ de l'éducation aux médias avec les différentes structures qui animent la fédération, qui sont fluctuantes, hein, puisqu'il y a toujours des structures qui arrivent, des gens qui s'en vont, enfin voilà, des médias qui disparaissent et d'autres qui naissent aussi. Et donc voilà, donc une fois qu'on a monté cet organisme de formation, c'était aussi dans cette volonté-là de garantir une diversité aussi des acteurs et des actrices de l'éducation aux médias pour pas que ce soit forcément que des journalistes qui sortent d'école ou de rédaction, mais que ça puisse aussi créer une sorte de maillage avec différents types d'acteurs et dont aussi les acteurs des médias alternatifs, disons. Et donc le livret, il est né aussi de la volonté d'aller au-delà d'être un organisme de formation comme un autre qui juste propose des formations. Il y avait aussi l'envie de se dire c'est aussi un lieu de réflexion collective, c'est aussi un lieu politique, puisque l'éducation aux médias, c'est aussi une fenêtre pour aborder plein de sujets de société avec les différents publics auprès desquels on intervient. Et donc, avec cette première formation autour des violences sexistes et sexuelles, on s'est dit assez vite qu'il y avait cette opportunité d'une publication parce qu'il y avait un petit budget et que ça pouvait être intéressant d'avoir un livret pédagogique autour de ça qui puisse être une ressource, pas forcément que pour les gens qui suivent la formation, mais aussi plus largement diffusée, puisque ça s'est créé aussi en partenariat avec le réseau Hémicycle, qui est un réseau d'acteurs et d'actrices de l'éducation aux médias et à l'information en région Hauts-de-France, et qui est donc le premier réseau d'acteurs régional en fait, qui s'est créé, puisque la région des Hauts-de-France était une région pilote en fait, sur les dispositifs d'éducation aux médias.
Et donc pour la rédaction, la création de ce petit manuel, vous êtes deux autrices, donc toi, hein, Flora, et puis également Audrey Gondalier. Comment est-ce que vous vous êtes répartie la charge de travail ?
Alors, disons que on est vraiment reparti aussi de ce qu'on, de la manière dont on avait créé le déroulé de la formation. C'est-à-dire que Audrey et moi, on a des profils assez complémentaires, puisque moi, donc, je suis plutôt issue de l'éducation aux médias et du journalisme. Et elle est plutôt issue à la fois du secteur associatif, avec un engagement très fort sur les quartiers populaires, puisqu'elle s'occupe notamment de Passe en Nous, de l'association Passe en Nous, qui regroupe beaucoup d'assemblées de quartiers, etc. Et elle travaille aussi vraiment sur la formation en termes de participation citoyenne et sur la lutte contre les discriminations de manière plus générale. Donc, sur la question des VHSS, c'était la plus, disons, c'était plutôt son côté à elle. Ça faisait déjà des années qu'elle proposait des formations sur ce champ-là, dans ce cadre aussi de lutte contre les discriminations. Et donc, le fait de faire alliance avec moi, c'était aussi comment on adapte ce qui est prévu en termes de formation VHSS, pour aussi former des référents VHSS ça peut être dans des associations, dans des entreprises. Là, d'essayer de l'adapter plus spécifiquement au champ des médias et de l'éducation aux médias.
Et donc, on lit quand même, parce qu'il y a une présentation, hein, de vous deux dans le livret, que toi, tu as fait tes premiers pas comme journaliste à l'Humanité et puis Article 11, hein, qu'on connaît bien. Et également, tu as cofondé le collectif La Friche à Roubaix, où tu as coordonné la revue Contre-jour. Alors aussi, un petit clin d'œil, parce qu'on avait rencontré, pour les autres voix de la presse, Lucas, lors de la sortie du numéro 1 de Contre-jour. C'était en novembre 2023. Mais est-ce que tu peux rapidement nous resituer un petit peu ce magazine, cette revue Contre-jour?
Oui, alors en fait, donc le collectif La Friche, il s'est créé en 2019 à Roubaix. Donc on était plusieurs, on était quatre fondateurs au départ. Donc Lucas, que tu viens de mentionner, il y avait aussi Julien Pitinome, qui était photographe, Sherazade Chekaïk, qui est journaliste pigiste. Et puis moi, en fait, on s'est croisés beaucoup autour des premiers dispositifs justement d'éducation aux médias qui se sont créés en Hauts-de-France. Donc on était plusieurs à ce moment-là à essuyer un peu les plâtres des nouveaux dispositifs, que ce soit les résidences de journalistes qui étaient calquées un peu sur les modèles de résidences d'artistes et qui cherchaient encore un peu leur forme. Il y avait aussi la naissance de médias participatifs. Donc Julien et moi, on a créé notamment le Labo 148 à Roubaix à la Condition publique, qui est un tiers-lieu culturel. Puisqu'il y avait aussi la volonté de créer un média à ce moment-là pour les jeunes et qui fasse un peu la jonction entre les habitants des quartiers populaires et des étudiants en journalisme. Et donc, en fait, il y a eu une sorte de petite effervescence comme ça qui s'est créée autour de ces premières résidences. On s'est croisés sur des restitutions. On a créé ce média participatif ensemble, qui est devenu aussi un lieu d'expérimentation et puis de recherche, puisqu'on était en lien aussi avec le laboratoire Géricault, qui est un laboratoire de recherche qui travaille sur l'information et la communication, et qui suivait aussi, qui accompagnait ces dispositifs d'éducation aux médias pour questionner aussi leur sens, les intentions politiques qui pouvaient y avoir derrière, peut-être aussi les préjugés sur les publics auprès desquels on intervenait, puisque les premiers dispositifs étaient très fléchés, notamment sur les quartiers populaires, comme s'il y avait cet enjeu plus spécifique de public qui s'informe bien ou pas bien. Il y avait quand même beaucoup ça au départ, beaucoup sur les jeunes aussi. Et donc assez vite, en se croisant sur ces différents lieux et en travaillant ensemble ponctuellement sur des journées de réflexion collective ou des choses comme ça, on s'est rendu compte qu'on avait une vision commune et puis aussi peut-être l'envie de défendre une autre manière de faire de l'éducation aux médias qui ne soit pas justement modelée par ces préjugés, par ces stéréotypes, mais qui puisse aussi reposer des questions à quoi ça sert, est-ce que c'est fait juste pour réhabiliter les journalistes et recréer du lien? Est-ce que ça peut être aussi un outil de création, de réappropriation de son image médiatique? Enfin, donc, il y avait toutes ces réflexions qui nous traversaient. On est aussi devenus amis. Et donc, en fait, la Friche, avant de devenir une association en 2019, ça faisait déjà plusieurs années qu'on travaillait ensemble sur différents projets. Donc, ça a été vraiment la naissance de l'association, une manière aussi de dire, voilà, on crée un nouvel espace où on est dépendant de personne et où on peut réfléchir à nos processus, à notre manière de faire et être à la fois disons, de la pédagogie et aussi de la création, puisque tout ce qu'on faisait en termes de pédagogie venait aussi bousculer nos manières de faire du journalisme. Et il y avait vraiment cette idée de croiser les deux et de tenir compte aussi de ce que ça venait remettre en question dans la manière de produire des contenus médiatiques. Donc on travaillait sur différents formats, puisqu'il y avait à la fois de la photo, du son. Moi, je suis aussi illustratrice. Donc il y avait l'idée aussi que cette richesse, en fait, de manière de raconter des histoires, elle puisse aussi faire partie et venir nourrir une manière de faire de l'éducation aux médias peut-être plus créative et d'expérimenter des formes un peu hybrides. Et donc la revue Contre-Jour, ça a été vraiment dans la lignée de ça, on va dire. C'est que entre temps, le collectif La Friche s'est agrandi. On est peut-être une vingtaine de personnes actives aujourd'hui. Pas que dans la région Hauts-de-France. Du coup, il y a eu aussi tout un noyau de personnes qui étaient très actifs en Île-de-France. Il y a eu un deuxième laboratoire comme le Labo 148 à Roubaix qui s'est créé à Clichy-sous-Bois aux ateliers Médicis, et un autre tiers le culturel. Il y a un troisième média qui est né l'année dernière qui s'appelle GAV, qui est plutôt à Corbeil-Essonne. On a des gens qui ont aussi monté des projets à Marseille, en Bretagne. Enfin voilà, ça c'est le collectif s'est vraiment étoffé, ce qui n'a pas été toujours très simple d'ailleurs à gérer, mais avec cet éclatement géographique. Et en fait, on s'est dit aussi à un moment donné, bah en fait, cet éclatement géographique, il est certes compliqué dans la vie quotidienne de l'association, mais c'est aussi une force et une richesse d'avoir des personnes qui agissent à différents endroits, sur plein de territoires différents, auprès de plein de publics différents, puisqu'on intervenait aussi bien avec des jeunes en milieu scolaire qu'avec des détenus en prison, qu'avec des personnes en EHPAD, que dans des maisons de quartier ou dans des cafés de campagne. Enfin, il y a eu beaucoup de projets très différents qui se sont montés. Et du coup, l'idée de la revue est née vraiment de cette envie de se dire, on est aussi journaliste, on crée aussi des choses. Il y a tous ces retours d'ateliers où il y a des productions qui sortent qui sont vraiment incroyables et qu'on ne lit pas ailleurs dans la plupart des médias. Et pourquoi on ne crée pas notre propre média qui serait un peu cette forme justement hybride qui soit à la fois du journalisme créatif et participatif où on ne distingue plus forcément qui sont les auteurs et les autrices qui ont animé les ateliers ou qui ont participé aux ateliers, quoi. Et donc, Contre-Jour est vraiment né de cette envie de faire résonner un peu les histoires qui sortaient de ces expériences qu'on menait un peu partout en France.
Donc, Contre-Jour, il y a le numéro 3 qui est sorti en mars dernier, c'est ça, le Somme.
Oui, tout à fait. Le SEM, ouais. Le numéro 3, il est né, enfin l'idée en tout cas de se dire, voilà, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait de cette colère? C'était, on était en fait, donc comme on est tous assez éloignés au quotidien, on se retrouve deux fois par an pour des sortes d'assemblées générales qui sont plutôt des chantiers de travail collectifs, où on réfléchit un peu aux différents projets et aussi à la structuration de l'association. Et donc à ce moment-là, on était à Marseille, puisque ça tourne aussi en fonction de qui peut accueillir à quel moment. Et c'était vraiment en plein moment des révoltes qui ont suivi la mort de Naël Merzouk. Et donc on était en train de réfléchir à ce qu'on faisait et à se dire là il y a quand même il se passe quelque chose de grave. Alors certes c'est pas la première fois que ça arrive, mais on était vraiment avec les hélicos au-dessus de nos têtes et c'était enfin voilà, on était en train de couvrir ça et puis il y avait tous les enjeux aussi en termes de liberté de la presse. On a été confronté à beaucoup beaucoup de cas de censure dans les ateliers les dernières années pour des questions de respect notamment de la laïcité ou des choses comme ça, ou parce qu'on travaille aussi beaucoup sur les violences policières et donc ça devenait vraiment quelque chose de très prégnant. Il y avait aussi toute la situation en Palestine qui nous traversait. Enfin, il y avait cette colère sociale et puis notre colère à nous et de se dire qu'est-ce qu'on en fait, comment on fait en sorte que cette colère soit un moteur et que ce soit pas quelque chose qui nous étouffent, quoi, ou qui jouent contre nous, et comment on peut aussi se faire écho de ces récits de personnes qu'on rencontre et qui traversent des situations compliquées, violentes, une frustration aussi, une injustice qui est très prégnante. Et voilà, donc c'est comme ça qu'est né le numéro 3.
Donc le numéro 3 de la revue Contre-Jour, parce qu'on va, enchaîner, on est là aussi pour parler du petit manuel de résistance, mais il est disponible en librairie, il est disponible via le site lafriche.org.
Il est disponible en librairie et s'il n'est pas dans la librairie où vous avez l'habitude d'aller, il faut le commander, il ne faut pas hésiter à en parler au libraire. Voilà, c'est diffusé par Pollen. Nous, on fait pas de, à parler, on a fonctionné beaucoup par campagne de prévente, mais une fois que les envois sont faits, on n'a pas le temps de gérer des envois au compte-gouttes, quoi. Donc c'est vraiment en librairie.
Oh, joli petit chat.
Oui.
Manuel de résistance contre les violences sexistes dans le monde des médias. Donc il y a l'édito, hein, l'édito qui rappelle un petit peu le pourquoi est-ce que vous êtes parti sur ce projet. Donc en effet, les VHSS, hein, faut repréciser, les violences et le harcèlement sexiste et sexuel sont une problématique majeure dans la société et le secteur des médias ne fait pas exception. Est-ce que justement, ce que je te propose, c'est qu'on parte un peu à la découverte de ce numéro. Donc vous écrivez également que que les VHSS s'inscrivent dans des dynamiques de pouvoir profondément enracinées. Aujourd'hui, pourtant, des initiatives émergent, porteuses d'espoir. Depuis 10 ans, l'éducation aux médias et à l'information joue aussi un rôle essentiel dans cette lutte en aidant les jeunes à décrypter les biais de l'information et identifier les mécanismes de la violence. Donc, à travers ce livret pédagogique, on découvre en effet énormément d'approches différentes, que ce soit des témoignages, qu'on passe aussi à travers un peu l'histoire du féminisme, des médias. Écoute, on va tourner un peu les pages. Comment est-ce que vous l'avez conçu? Donc la toute première rencontre, c'est avec Emmanuel Dancourt de MeToo Media.
Oui, alors on s'est un peu posé la question, on a décidé de le découper un petit peu en 4 parties, avec à chaque fois une alternance entre des interviews. On a essayé de qu'ils soient un petit peu complémentaires. Donc, il y a une interview plutôt d'une journaliste, donc Emmanuel Dancourt, qui a vraiment participé à fonder MeToo Media, qui était plutôt aussi une réaction aux violences subies dans le secteur des médias et pouvoir justement collecter aussi les témoignages, pouvoir être ressource au niveau juridique et pour pouvoir rendre visibles aussi ces violences, puisque souvent elles sont, enfin il y a une sorte d'omerta et dans les entreprises médiatiques, ça fait pas exception. Ensuite, on a une interview de Marion Dalibert, qui est plutôt une chercheuse qui travaille notamment sur les représentations en fait plutôt sexistes dans les médias. Et l'histoire de la médiatisation aussi de collectifs féministes et comment ça a été perçu. Ensuite, on a une interview plutôt d'une journaliste qui a beaucoup travaillé sur les questions LGBTQIA+, qui raconte aussi sur comment petit à petit ça a été des sujets plus médiatisés qui avant étaient quasi invisibles dans la presse. Ensuite, on a Marion Pillas, qui est la créatrice de la revue La Déferlante, et qui a été vraiment un des médias féministes de la nouvelle génération après la grosse vague de MeToo, et qui a rencontré un lectorat très large et qui a eu vraiment du succès et qui a aussi créé une communauté en fait autour de son média, puisqu'il y a aussi beaucoup de rencontres en présence avec des débats, des masterclass, des rencontres, des expos, enfin toute une vie aussi autour du média papier qu'elles ont créé, pas juste dans les pages. Donc voilà, nous c'était vraiment cette complémentarité qu'on voulait. Et après, du coup, ça c'est les grandes interviews qui découpent un peu en 4 parties le livret. Mais il y a aussi d'autres petites rubriques qui sont plus des retours sur des affaires particulières et sur le traitement médiatique de certains cas. Donc on revient notamment sur l'affaire Mazan en la mettant en regard avec aussi le procès de Bobigny défendu par Gisèle Halimi donc en 72, qui donc remet un peu en perspective comment ça a été traité, comment ça a évolué aussi, est-ce que ça a bougé, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui n'a pas bougé. Il y a aussi des initiatives de médias qui sont un petit peu détaillées, ou de collectifs de journalistes. Il y a aussi des ressources plutôt juridiques qui permettent de définir aussi donc on a remis aussi la pyramide des violences. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça suppose, comment on qualifie ces violences et aussi de quelles amendes ou de quelles peines elles sont passibles. Ça alterne vraiment des différents types de formats. Il y a une socio-histoire croisée des 4 vagues féministes et comment ça a été aussi, comment ça s'est traduit dans les médias.
Là, justement, c'était un des points qui m'intéressait aussi un petit peu, parce qu'avec les autres voix de la presse, on part pas mal de médias. Moi, je suis pas mal branché sur tout ce qui est la presse indépendante des années 70 à aujourd'hui. Donc, comment est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu cette évolution, s'il y en a une, des médias quant justement à la prise de parole, à l'expression de tout ce qui peut être les mouvements féministes jusqu'à aujourd'hui LGBTQIA+.
Alors, on voit que jusqu'aux années 60, c'est vraiment c'est l'ère des médias traditionnels. Donc, on est plutôt dans des rôles très stéréotypée des femmes dans la presse. Le milieu du journalisme aussi reste largement masculin. C'est plutôt, enfin, les, voilà, on reste sur des, les femmes sont plutôt des speakerines ou voilà, c'est pas, c'est encore assez à l'ancienne. Donc il y, y a bien des grandes figures féministes, mais qui sont plutôt dans le, dans le, dans les circuits, des, dans les milieux intellectuels, qui sont pas forcément très entendues, en tout cas dans le monde médiatique. Et donc effectivement, avec la révolution féministe des années 60-70, il y a des nouvelles publications. Donc tu parlais des médias indépendants. Il y a donc le, notamment le Torchon brûle qui se crée en 71. Il commence à y avoir vraiment des revendications fortes, donc surtout sur le, la question du contrôle des corps, avec la, la lutte qu'on connaît bien, qui est devenue un peu emblématique et parfois peut-être réductrice aussi de cette période-là, mais sur l'avortement, sur la contraception. Donc il commence à y avoir des reportages qui paraissent aussi dans les médias généralistes, mais ça reste vraiment à la marge et minoritaire. Et donc il y a aussi à ce moment-là quand même des médias aussi LGBT mais qui sont très très peu visibles, y compris dans la lutte féministe. Ensuite, donc là, on passe aux années plutôt 90-2000, où c'est, effectivement, c'est plus médiatisé. Il y a des affaires un peu emblématiques, donc notamment l'affaire de Marie Trintignant, mais où on voit que le traitement médiatique est encore très, très... Enfin, laisse pas mal à désirer sur... voilà, qui reste très, très sensationnaliste, avec des propos que je pense on aurait du mal à entendre de la même manière aujourd'hui. D'ailleurs, voilà, c'est des affaires qui sont revenues et qui ont été retravaillées aussi avec avec des nouveaux regards, je pense, depuis. Notamment comment on qualifie les violences domestiques. Enfin, on n'entend plus, par exemple, le crime passionnel. Ça commence à disparaître. Mais cela dit, aujourd'hui, il y a malgré MeToo, depuis les années 2010, ça a bougé. Il y a beaucoup, les réseaux sociaux ont fait aussi énormément de avancer le, les revendications féministes. Il y a eu un mouvement de bon bah si la presse généraliste n'en parle pas assez ou pas assez bien, faisons-le nous-mêmes, non? Et donc il y a pas mal de plateformes qui ont permis ça. Il y a eu aussi une explosion depuis de différents médias féministes ou de sections plus dans les médias généralistes plus dédiées aux questions de genre, etc. Donc beaucoup d'affaires aussi qui ont explosé, mais il y a encore quand même une manière de traiter certaines affaires. Je pense notamment à la question du traitement des violences dans les faits divers de la presse régionale, par exemple. Ça reste toujours en faits divers plutôt qu'en faits de société. C'est plutôt une tendance assez répandue encore aujourd'hui. La manière dont on va décrire plutôt... la victime, on ne va pas la décrire de la même manière que l'auteur des violences, par exemple, avec des différents types de qualificatifs qui vont plutôt avoir tendance à objectifier la victime et à rendre plus humain ou à trouver des circonstances atténuantes à la personne qui a commis les violences. Donc voilà, c'est des choses où il reste encore pas mal de travail, quoi.
Le livret est vraiment super intéressant, il est très bien mis en page, hein, il y a un bon rythme. Là, ce que j'aimerais te poser comme dernière question, c'est comment est-ce qu'on peut se le procurer, où est-ce qu'il est diffusé ?
Alors, il n'est pas diffusé en librairie, on l'a imprimé, je crois, de mémoire à 1000 ou 2000 exemplaires, je ne sais plus, mais on les a à l'association Carmen, qui est la tête du réseau Hémicycle dont je parlais tout à l'heure, qui est donc le réseau d'acteurs et d'actrices d'éducation média en région Hauts-de-France. Qui les met à disposition sur demande. Il y a aussi la Fédération d'audiovisuel participatif qui est basée dans le Luberon, donc faut avoir envie d'y aller, mais qui fait aussi des actions un petit peu partout et donc venir en formation peut être une piste, mais voilà, c'est plus de la main à la main, c'est pas diffusé ni en librairie ni rien. Par contre, c'est gratuit et voilà, sur demande à l'une des deux structures, ça peut être aussi envoyé par courrier, j'imagine. Si c'est ponctuel, c'est une possibilité.
De la main à la main, oui, c'est comme ça que je me le suis procuré lors des résistantes ce mois d'août en Normandie. Une personne est passée sur le stand des Hautes Voix de la Presse et nous a montré ce petit manuel de résistance. Donc on a eu la chance, on a pu en avoir 3 ou 4 d'un coup. Ils sont partis très rapidement sur le stand. Bon, ben, je le conseille vraiment parce que je trouve qu'il y a un bon équilibre justement entre le point sur l'actualité où on en est, le côté historique, également militant concernant toutes ces luttes, hein, les différents témoignages et puis tout ce qui est pratique, voilà, les rappels un peu à la loi et puis les différents contacts. Ben, Flora, merci beaucoup.
Merci à toi et aux auditeurs.
Ben, avec plaisir.
Riz. À bientôt, merci.
C'était les Hautes Voix de la Presse avec Flora pour le petit manuel de résistance contre les violences sexistes dans le monde des médias. À la semaine prochaine, d'ici là.
Où va se diriger ton stylo ?